Idéal pour les gourmets et les amoureux de la nature. Quatre villages, saveurs, nature, sport santé et repères du jeu vous permettront de repartir avec des pistes pour votre bien-être. Eyecourt, ma ville nature, samedi 13 mai de 14h à 20h et dimanche 14 mai de 10h à 18h, entrée libre.
Vous souhaitez annoncer votre manifestation sur Fadjet ? Contactez-nous par mail à agenda@fadjet.net ou via notre site internet fadjet.net, rubrique « Annoncez votre événement ».
Tous les 15 jours, le jeudi, de 21h à 22h, sur Fadjet, les papy pop papotent.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera.
On ressort de notre petite boîte à gâteaux les pépites rares, oubliées et les tubes à travers les années. Des anecdotes semées d'humour et de nostalgie.
Les Papy Pop, c'est tous les 15 jours, le jeudi, de 21h à 22h, sur Fadjet.
Fadjet. 11h sur Fadjet, merci d'être à nos côtés.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les dimanches matins de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai aussi le grand plaisir d'accueillir l'association Lorraine de musique de chambre en la personne de son président, Philippe Foisseux. Bonjour, Philippe Foisseux.
Bonjour. Alors, enlever le « i », c'est bien, ça fait « Foisseux ».
Ah, pardon, Philippe Foisseux.
Oui, tout à fait, c'est d'accord. Ça, Philippe Foisseux.
Alors, Philippe Foisseux, excusez-moi.
Hein, c'est pas grave.
Erreur de...
C'est pas grave, ça arrive souvent.
Ah bon ?
Ah oui, oui, oui.
Alors, cette émission va me permettre, évidemment, de présenter l'association Lorraine de musique de chambre. Peut-être, évidemment, nos éditeurs, pour l'essentiel, la connaissent bien, mais peut-être la connaissent aussi un peu plus ou moins bien. Une prestigieuse association qui, il faut le dire, a déjà plusieurs décennies d'existence et qui propose des saisons absolument fabuleuses, avec à l'affiche quelques-uns des plus grands musiciens, des plus grands solistes de la planète. On est vraiment chanceux à Nancy. Alors, si je cite Wilhelm Kempf, Nelson Frère, Vadim Repin, tous, évidemment, à des époques différentes, se sont produits salle poirelle dans le cadre de l'association Lorraine de musique de chambre. Alors Philippe, quand on préside une association qui a un tel héritage, une telle exigence de qualité, est-ce que c'est un poids particulièrement lourd à porter ?
Je dirais non, c'est pas très lourd à porter. C'est une activité qui m'occupe beaucoup, bien évidemment, qui m'oblige à énormément de contacts extérieurs. Mmh. Mais l'un dans l'autre, être en contact avec Martha Argerich ou être en contact avec Wilhelm Kempf, j'ai pas connu malheureusement, mais avec des artistes de ce type-là, ça n'est pas bien lourd. Ce qui est lourd, c'est la préparation, la recherche, l'écriture du programme, des choses comme ça.
Alors ça, on va y revenir parce qu'on va présenter la façon dont fonctionne l'association, qui d'ailleurs est une association qui repose essentiellement sur le bénévolat.
Absolument. C'est même le principe, aucun salarié dans cette association.
Ouais.
Tout le monde est bénévole et l'ensemble du bureau, qui se résume à trois personnes d'ailleurs, moi-même, un trésorier, vice-président et une chargée de communication, tous les trois sommes complètement engagés. La rémunération, c'est pas qu'elle ne nous intéresserait pas, mais c'est une association qui ne peut vivre que par du bénévolat pour équilibrer ses comptes. Elle est très peu subventionnée.
Mmh. Donc, une saison particulièrement riche et qui va se prolonger bientôt, le 15 mai prochain, 20h30, salle Poirelle. Il faut préciser que tous les concerts ont lieu salle Poirelle.
Tous les concerts ont lieu salle Poirelle, effectivement. C'est un choix que nous avons fait, finalement. Et c'est une salle qui se prête très, très bien par son acoustique et sa sonorité, tant à la musique de chambre qu'au piano seul qu'à la voix.
Oui. Alors, ce concert nous proposera les deux Concerto pour piano de Frédéric Chopin, avec en soliste François Dumont, et l'orchestre Lamoureux, dirigé par Hugues Borsarello. Je crois que c'est un artiste qui vous est cher, je le sens.
Tout à fait, c'est un artiste qu'on aime beaucoup. C'est un violoniste de très grande qualité. C'est un violoniste que j'ai aussi connu à titre personnel comme premier violon d'un orchestre dont je me suis occupé dans le passé, qui était la Folia, l'orchestre de chambre d'Alsace, avec qui on a d'ailleurs enregistré un CD. Et c'est un garçon qui est un des grands du violon d'aujourd'hui et qui a des partenaires tout à fait prestigieux avec lesquels il travaille. Nous le recevrons d'ailleurs dans la saison prochaine avec Franck Bralet au piano.
Alors les deux concertos de Chopin dans la même soirée, c'est assez rare, il faut le dire.
Oui, c'est tout à fait rare.
Et c'est un vrai challenge pour le soliste, là.
Alors oui, je dirais que les solistes qui viennent jouer, eux, sont rémunérés. Donc, même s'il y a du travail, bien ma foi, c'est un tout petit peu normal. Non, mais je plaisante. Mais il est vrai que les deux concertos dans la même soirée, c'est assez rare. Mais c'est un challenge dont j'avais discuté avec François Dumont il y a déjà plusieurs années, en lui disant, est-ce que tu es capable de faire les deux dans la même soirée? Et la réponse avait été, je réponds. Et donc, on a tenté de mettre au point ce concert. Il avait déjà été annulé une première fois à cause du Covid. Oui. Et là, maintenant, nous le remettons. On espère qu'il pourra se produire lundi. Oui. Juste pour la petite histoire, on sait que la salle Poirel a quelques soucis de technique en ce moment. Donc, il n'est pas impossible que le concert soit reporté à nouveau, mais il aura lieu.
Et le plaisir de retrouver un orchestre prestigieux qui a une longue histoire derrière lui. L'orchestre Lamoureux, fondé par Charles Lamoureux à la fin du 19e siècle, et qui avait disparu et qui a ressuscité grâce à différents chefs d'orchestre.
Tout à fait, c'est un orchestre qui a eu énormément de succès. C'est un orchestre qui a créé beaucoup d'œuvres, que ce soit de Saint-Saëns ou autre. C'est un orchestre qui a été un petit peu endormi et qui a été réveillé par de grands chefs, dont le dernier, qui est un excellent chef. Et Hugues Borsarello, en devenant premier violon solo de l'orchestre Lamoureux, a créé ce qu'ils appellent la chambre, c'est-à-dire l'orchestre de chambre, une formation réduite sans les cuivres, une formation de cordes donc, d'une vingtaine de musiciens. Et c'est dans cette version orchestre à cordes avec piano que seront joués les deux concertos.
Voilà, c'est intéressant de le préciser, parce qu'évidemment, il y a une partie quand même de bois assez développée dans ces concertos. Hein.
Tout à fait.
Alors, on va écouter un extrait du premier concerto, le final. J'ai choisi la version de Maria João Pires. Peut-être est-elle venue
Et bien sûr, Maria João Pires est venue, et je pense pouvoir dire qu'elle viendra dans un avenir plus ou moins proche.
Ah ben voilà une bonne nouvelle.
Pour nous retrouver effectivement sur la scène de la LMC.
Elle est entourée de l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo, dirigé par Armin Jordan.
Thank you.
un extrait du premier concerto pour piano de Frédéric Chopin, le final, avec Maria Joao Pires, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, dirigé par Armin Jordan. Et je suis toujours en compagnie de Philippe Fosseux, qui est président de l'Association Lorraine de musique de chambre. Et ce concerto pour piano numéro 1 de Chopin sera joué le 15 mai prochain à 20h30, salle Poirel, les deux concertos avec François Dumont au piano. Alors, l'Association Lorraine de musique de chambre propose aussi, de temps à autre, des concerts pour soutenir des causes. Je pense notamment à ce concert solidaire pour l'Ukraine.
Tout à fait. Nous avons répondu à l'appel de la Music Chain for Ukraine, qui est une association belge à l'origine qui souhaitait soutenir les musiciens ukrainiens exilés et qui a également réussi à monter un chœur de femmes avec des femmes exilées dont les maris sont toujours là-bas sur place, là, pour la plupart au combat. Donc on nous a demandé si on était d'accord pour faire quelque chose. Bien évidemment, on ne pouvait pas répondre négativement. Donc on a organisé tout de suite ce concert qui a eu lieu le 16 avril. Et on a fait appel aux abonnés, aux Nancéens, pour recevoir les chanteuses. On aurait pu loger deux fois plus de chanteuses, on aurait pu nourrir deux fois plus de chanteuses. Ça a vraiment été un moment tout à fait exceptionnel.
De solidarité.
Et un beau concert de solidarité avec un très beau chœur et un quatuor à cordes qui était de très belle qualité.
Et donc la recette reversée
Recette là. Totalement reversée aux
Ukrainiens.
Aux Ukrainiens. C'est en cours actuellement. Donc.
Alors il y a aussi dans votre programmation régulièrement des concerts à destination, je dirais, du jeune public. Le Carnaval des animaux, par exemple, qui a été proposé cette saison. Donc ça, c'est aussi quelque chose, un impératif pour vous d'initier le jeune public à la musique de classique.
Alors c'est effectivement un engagement que nous avons pris il y a quelques années, de dire... Le public vieillit, bien évidemment, et les publics sont de plus en plus difficiles à faire venir dans les concerts. Et donc, il y avait une action à mener, c'était celle de la formation musicale des plus jeunes. Pour cela, donc, on a décidé de faire tous les ans un concert, au mois de décembre, juste avant Noël. Un concert qui soit une œuvre qui soit à la fois musicale, visuelle et éventuellement littéraire, parlée. On a donné Le Petit Prince, par exemple, de Saint-Exupéry, on a fait Pierre et le Loup très récemment, on a fait le Carnaval des animaux, qui l'a été à la fois pour les adultes et les enfants, puisque je dirais le Carnaval des animaux, tous les enfants aiment bien, mais les commentaires qui étaient ceux d'Alex Vizorek, qui était le récitant, étaient plus adultes, bien évidemment. Sûr, ouais. Hein, c'est un humour tout particulier. Et donc on fait ça chaque année. Cette année, nous recevrons Katerina Barsukova, qui est une jeune femme qui dessine sur sable. Elle était déjà venue il y a 2 ans, elle avait beaucoup marqué le public, et là donc elle viendra avec un duo de piano qui est Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel, qui sont un grand duo de piano bien tout à fait réputé, et on donne un spectacle à ce moment-là qui s'appellera Sophie et Nicolas. C'est 25 petits airs très connus de la musique russe et française.
Alors en tant qu'organisateur de concert, est-ce que vous pensez que le concept même du concert doit être modernisé, revu régulièrement?
Je pense en effet qu'il...
Pour attirer justement un nouveau public.
On ne peut plus faire les concerts tels qu'on les a faits avec les queues de pie, les gens qui s'asseyent, qui jouent et qui s'en vont. Ça, c'est fini. Les gens viennent encore pour ça, mais beaucoup moins. Si on veut avoir un public et un public intéressé, bon, à mon avis, il faut j'ai deux tendances, moi, que j'essaye de promouvoir. Un, celle de la communication entre le public et l'artiste, qui explique ce qu'il joue, qui parle du compositeur. Je l'ai vu encore récemment avec Anne Kafelek au piano, qui... une grande bavarde, elle m'excusera si elle nous écoute. elle parle énormément et heureusement elle est très intéressante. Donc on a bien senti que lorsqu'elle racontait les choses, lorsqu'elle parlait de l'œuvre qu'elle allait jouer, moi-même qui ai pourtant une relativement bonne culture musicale, je peux vous dire que j'ai pas écouté la sonate de Mozart qu'elle a jouée de la même manière. Ouais. Donc c'est très important. Et l'autre tendance, c'est celle du spectacle avec récitant.
Oui, c'est vrai. Alors, que ça se développe de plus en plus.
Ça se développe de plus en plus.
C'est François Castan, d'ailleurs, qui est un, François, voilà, qui est un chroniqueur François, sur France Musique, qui
absolument.
Avait commencé à, qui a initié un peu ce,
tout à fait.
Cette mode, on peut dire
tout
ça
à
comme
fait.
Ça.
Tout à fait. On a, actuellement, on a de très belles choses sur Proust avec Lambert Wilson. On a des, nous allons bientôt, enfin, ça, c'est une surprise, je le dévoile en toute avant-première, puisque la programmation, c'est pour dans 2 ans, on aura Pierre Arditi qui viendra aussi avec ses amis musiciens pour un spectacle de ce type-là. On a Julie Depardieu qui fait
oui,
aussi des choses.
Régulièrement.
Ouais. On a vraiment aujourd'hui. Alors, c'est deux types de spectacles qui communiquent. Et puis, en troisième, l'image. Si on a aussi de l'image derrière, j'ai par exemple organisé pour la venue de Jean-Jacques, de Alexandre Kantorov, un grand écran sur lequel on projetait ses mains. Là aussi, les gens ont envie de voir quelque chose, pour tous ceux qui ne voient pas les mains, et même ceux qui sont du côté des mains, ils ne voient pas toujours très bien, parce qu'ils sont plus bas que le piano.
Et pour avoir été présent le soir du concert, je peux dire que ça ne déstabilise absolument pas le pianiste, qui d'ailleurs régulièrement jetait un coup d'œil sur l'écran. Alors, il y aura un dernier concert le lundi 19 juin, qui va, donc concert qui clôture cette saison de l'association Lorraine de Musique de Chambre, le quatuor face à face, 2 pianos et une forêt de percussions, avec des œuvres de Ginastera, Bernstein, Gershwin, entre autres. Alors, on notera, enfin, moi je note l'extraordinaire variété des répertoires proposés.
Tout à fait. Alors, c'est un quatuor de 4 jeunes femmes, ce sont déjà des pianistes et des percussionnistes confirmés, mais disons, c'est vraiment la nouvelle génération de la musique, et elles ont en particulier envie de jouer des choses qui sont des choses plus récentes, plus modernes, et qui s'adapte bien à la formation percussion piano. Il y a quasiment il y a rien d'écrit pour percussion et piano.
C'est vrai, sauf
naturellement
la sonate de Bartok.
Voilà, on a de très rares exemples. Bartok, la suite de Bernstein, donc qui sera jouée, a aussi été arrangée pour piano et percussion, mais ce sont pour la plupart des transcriptions et des arrangements. Des œuvres originales, il n'y en a pas énormément.
Et forêt de percussion, ça c'est,
je dis
c'est
forêt,
joli, je trouve.
Oui, oui, j'ai dit forêt de percussion, parce que quand on regarde la scène, c'est 2-3 marimbas, des timbales dans tous les sens, caisse claire, grosse caisse, cymbales de partout. C'est un concert pour les jeunes. Alors, c'est vraiment un concert où ça va rythmer. Je pense même qu'il y en a qui devraient danser dans les allées.
Pourquoi pas. Alors, au programme, donc, Alberto Ginastera, compositeur argentin, qui est de plus en plus joué.
Oui, redécouvert.
Redécouvert, grâce notamment à l'orchestre Simon Bolivar du Venezuela et Gustavo Dudamel, qui a ça dans le sang.
Oui.
On va écouter le final d'Estancia. C'est l'Orchestre National de l'Opéra de Lyon, l'Orchestre National de Lyon, dirigé par David Robertson. Thank you. La danse finale d'Estancia d'Alberto Ginastera avec l'Orchestre National de Lyon, direction David Robertson, une œuvre qui figure au programme du concert de clôture de l'Association Lorraine de Musique de Chambre le 19 juin prochain, avec le quatuor face à face et une forêt de percussions. Je suis toujours justement en compagnie de Philippe Fosseux, directeur de l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Alors comment se passe l'élaboration d'une saison ? Est-ce que c'est un choix personnel, collectif ? Est-ce que vous êtes contacté par les agents des artistes ?
Alors effectivement, l'élaboration d'une saison, c'est toute une aventure. D'abord, ça se prévoit en général 1 à 2 ans à l'avance, un minimum, parce qu'on ne peut pas faire moins, mais très souvent 2. Là, je travaille actuellement sur 2025-2026, vous voyez. Donc, alors, les contacts sont très divers. Ce sont à la fois les artistes, ceux que je connais pour certains, qui, avec qui je parle et qui me font des propositions pour les saisons à venir, que j'enregistre, que, dont je ne sais pas si je pourrais me servir. Ce sont les agents des artistes, effectivement, qui nous tiennent au courant. Alors, pour certains, ils sont excellents, mails, coups de téléphone, et ils sont force de proposition. Ce qui permet de trouver parfois, au travers de leurs propositions, la perle rare que je cherchais. Et puis, j'écoute énormément de musique, bien évidemment. J'écoute tout ce qui me tombe sous la main, les CD que je reçois, les liens qu'on m'envoie. Et j'essaye d'équilibrer quelque chose qui est à la fois l'ensemble des genres musicaux que notre public attend, des perles rares, comme je disais, des choses qu'ils n'ont jamais entendues et qu'ils vont apprécier, j'en suis sûr, et c'est toujours le cas. Vous voyez, c'est une espèce d'amalgame, et une saison, finalement, elle se mature, elle se mûrit. Je change 3 fois les dates, je change l'ordre, je change les artistes, et je finis par obtenir quelque chose qui, en général, est assez équilibré.
Oui, sauf si les artistes, évidemment, sont malades.
Alors, sauf si l'artiste est malade, comme ça nous est arrivé l'année dernière. Bon, auquel cas, surtout quand on nous prévient à 10h du matin, pour le soir, mais où... heureusement, d'autres artistes sont tout à fait prêts à repousser leurs vacances en Espagne, comme ça a été le cas, et à venir jouer pour nous, et où notre super imprimeur de Nancy nous a refait le programme complet dans l'après-midi.
Alors, un artiste qui sort un album qui cartonne, hein, comme on dit, est-ce que c'est un élément décisif ? Je pense notamment à l'album Émotion de Gauthier Capuçon, qui rencontre actuellement un succès considérable dans les ventes classiques, et même, je crois, au top 50 des meilleures ventes de disques tout genre confondu. Est-ce que c'est un élément pour vous, ça ? Un artiste populaire, on va dire ?
Alors, les agents nous proposent souvent de faire quelque chose autour des sorties de CD. Alors, 9 fois sur 10, je leur dis, écoutez, non, c'est pas la peine parce que c'est déjà trop tard, vous me sortez un CD au mois de mars de l'année, moi je suis en train de travailler sur N+2, donc c'est déjà prévu, donc en général ça marche pas bien. Par contre, un artiste qui vient et qui vient de sortir son CD qui a beaucoup de succès, remplira mieux la salle.
C'est un atout, quoi.
Mais si c'est Gauthier Capuçon, pour prendre celui que vous... Bon, il n'y a pas besoin de ça pour remplir la salle. Ça se fait tout seul. Et avec Gauthier, bon, on pourra en parler pour la saison prochaine, mais avec Gauthier, on fait régulièrement des choses qui sortent un peu de l'ordinaire.
Alors, je vous ai demandé d'apporter quelques disques qui comptent pour vous.
Oui.
Et vous avez choisi l'ensemble vocal qui chante a cappella, les Swingle Singers.
Qui chantaient, puisque aujourd'hui... Ils ont disparu, malheureusement. Ils ont fait une carrière absolument fantastique. C'est un groupe de grande qualité. Mm-hmm. C'est à la fois très moderne et très ancien. Ce que vous allez écouter, ça date de 1963.
Oui.
Et je tiens beaucoup à ce disque parce que c'est mon premier disque acheté avec mes propres fonds et mon premier salaire.
D'accord, oui.
Il y a 60 ans.
Hein. C'est sentimental, quoi.
C'est un peu sentimental. Mais en plus, c'est très beau parce que, écoutez bien, la musique est exactement celle qu'a écrit Bach.
D'accord.
Au niveau des voix.
Et c'est
les seuls rythmes jazzy, ce sont les basses, c'est Daniel Humer et c'est le Peterson à la contrebasse, qui donnent le rythme un peu jazzy. Le reste est strictement ce qu'a écrit Bach.
Donc on écoute un extrait de cet art de la fugue revisité par les Swingle Singers.
Voilà.
oui, évidemment, Bach ne s'y retrouverait peut-être pas, mais il est souvent adapté, jazzy, je pense à Jean-Claude Bolling notamment.
Oui, absolument, il a beaucoup été adapté. Moi, je suis persuadé, voyez-vous, au contraire, qu'il s'y retrouverait très bien, parce qu'il était contraint à l'époque par les habitudes et par le classicisme, donc il y a des choses qu'on ne faisait pas, on ne pouvait pas, il était cantor, il n'allait pas jouer ça pendant une messe, on est bien d'accord. Mais je suis persuadé qu'il aurait aimé l'interprétation qu'on en fait. De même que Chopin aurait aimé jouer sur un piano moderne, contrairement à ce que certains me disent, il faut toujours que Chopin soit joué sur des vieux pianos. Non, Chopin aurait vraisemblablement fait des choses encore plus complexes.
Certainement,
avec un piano moderne. Et Beethoven aussi, absolument.
Je suis donc toujours en compagnie de Philippe Fossieux. C'était votre choix, les Swingelsingers dans Bach. Donc on va parler un petit peu de vous, si vous acceptez. Comment devient-on président de l'Association Lorraine de Musique de Chambre? Quelle place occupe la musique dans votre vie? J'imagine qu'elle est immense.
Oui, la place qu'elle occupe dans ma vie, c'est... Je suis né sous le piano, dit-on. Ma mère était pianiste et elle jouait encore quelques heures avant ma naissance, vous voyez. Donc, je suis né sous le piano, mon père était chef d'orchestre. J'ai baigné dans la musique tout petit, entre les disques qui passaient, entre le piano qui résonnait, entre les représentations où mes parents m'emmenaient, et je me suis mis moi-même au piano très rapidement. On m'a mis au piano très rapidement, bien évidemment, dans une famille comme celle-là.
Famille musicienne,
grand-père chef d'orchestre, grand-mère chanteuse et pianiste. Mon grand-père a écrit la méthode Rose pour piano, donc c'est vraiment la famille musicienne. Donc c'est dans toute ma vie, il y en a tous les jours chez moi, il y en a au moins une fois par jour, même si c'est pas trop long, mais il y en a en permanence. Et si possible, quelques heures, quand je peux écouter plusieurs heures de suite.
Et la fameuse méthode Rose, qui a été un incontournable pour les apprentis pianistes, il faut le dire.
Incontournable pour des centaines de milliers de jeunes femmes, notamment. Et puis, il écrivait aussi, d'ailleurs, des transcriptions de morceaux très, très, très chouette, comme les valses de Vienne, qu'il simplifiait au maximum pour les très jeunes pianistes, de façon à ce que le piano, l'apprentissage, ne soit pas un pinsum, mais soit une récompense. Donc, on pouvait jouer des choses qu'on entendait de manière très simple, transposées dans une tonalité où il n'y a pas trop de dièse ou de bémol, et ça, c'est quelque chose aussi qui a marqué ma petite enfance.
Oui. Hein. Donc, la musique de chambre, c'est ce dont vous vous occupez, mais vous aimez aussi, j'imagine, l'opéra et le répertoire symphonique.
Alors, j'aime toutes les musiques, avec le symphonique étant une de mes grandes passions. Les grandes symphonies, les grands concertos m'emballent particulièrement. Et alors, pour répondre à votre question, comment je suis arrivé là à la LMC, eh bien, ma foi, simplement en écoutant de la musique. J'ai été moi-même abonné de la LMC sans en être partie prenante. Et puis un jour, on m'a posé la question de savoir, le président en charge de la LMC allait prendre sa retraite, en quelque sorte, bien qu'il soit déjà en retraite, puisque on est tous en retraite pour faire ce genre de choses. Sinon, on n'aurait pas le temps. De discussion en discussion, je suis rentré dans le système, j'ai commencé à travailler avec lui. Il y a eu un président entre-temps, Jean-Claude Marshall, qui est un neurochirurgien réputé, qui a fait 4 ans, et puis ensuite je suis devenu naturellement, en fait, élu par le comité de la LMC. Il y a un comité d'une vingtaine de personnes qui aident, qui soutient, qui suggère, avec qui on peut parler, prendre un peu de recul, et ça s'est fait tout naturellement.
Donc, votre rapport au disque, j'imagine qu'il est très fort. Vous êtes de ceux qui collectionnent, qui thésaurisent. Comment vous achetez beaucoup?
Alors, j'ai acheté beaucoup, mais j'achète plus beaucoup parce qu'aujourd'hui, ce sont les agents qui me les renvoient. Donc, j'en ai énormément. Il y en a dans toute la maison. Ma femme me fait la chasse en permanence parce qu'il y a des disques qui traînent sur le canapé, sur la table du salon, sur mon bureau, sur la pièce où je fais du vélo, etc. etc. Il y en a partout.
Parce que je connais aussi.
Hein. Voilà. Mais ça fait partie de notre vice fondamental et nous retirer ça, ce serait...
D'accord. Mais vous êtes un crime. Vous êtes plus attaché aux artistes du passé. On pourrait écouter beaucoup les artistes, le Quatuor Bush ou des, je sais pas.
Non, alors je réécoute
le Beaux-Arts Trio.
Je réécoute beaucoup les artistes que je connais, ouais. que j'ai rencontrés.
D'accord.
Parce que je les ai rencontrés, j'ai dîné avec eux, j'ai parlé avec eux, j'en connais donc un peu plus de leur vie personnelle. Et même pour certains, quand ils se prennent un dimanche soir en disant ah, on veut absolument une salle de répétition avec un piano. Tout est fermé, le conservatoire est fermé, etc. Et donc, dans ce cas-là, ils viennent chez moi, et il y a un bon piano, ils viennent, ils ont une salle pour jouer, et à ce moment-là, c'est aussi la pizza sur le coin de table qui fait qu'on a un contact. Alors, ceux-là, je les écoute beaucoup plus, et puis j'ai mes morceaux préférés, bien sûr, évidemment. Oui.
Alors, on va écouter un disque que vous avez choisi, c'est l'intégrale des 5 concertos pour violon de Mozart, avec Hugues Borsarello, vraiment un artiste qui compte pour vous, qui est violoniste, vous en avez parlé tout à l'heure, et l'Orchestre de Chambre d'Alsace. Pourquoi ce choix ?
Alors, c'est un choix très particulier, puisque j'ai été président de l'Orchestre de Chambre d'Alsace pendant une dizaine d'années. J'ai participé très largement à le faire connaître, développer, à travailler. Nous avions fait un superbe spectacle qui était un spectacle sur la Grande Guerre de 14-18 à la période de anniversaire. Et le violoniste solo, donc Borsarello, qui n'était pas encore un de mes amis, est venu jouer pour ma retraite. Il est venu jouer à la réception que je donnais pour ma retraite. Et il cherchait quelqu'un pour s'occuper de l'orchestre. Et je suis tombé dedans. J'ai dit oui. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé quelques années plus tard d'enregistrer cette intégrale qui est peu enregistrée et qui a été très bien reçue par la critique. Il y a beaucoup d'enregistrements connus, mais elle a été peu enregistrée ces dernières années.
D'accord.
Ça revient en ce moment. On revient sur les 5. On a beaucoup d'enregistrements de 1, du 3,
du 5 aussi.
Les 5 ensemble, du 5 aussi, bien sûr. Mais les 5 ensemble, c'est tout à fait, c'est beaucoup plus rare.
Donc, on va écouter votre deuxième choix, c'est le rondo du troisième concerto pour violon Köchel 216, il faut toujours être précis quand c'est Mozart, avec Hugues Borsarello au violon et l'Orchestre de Chambre d'Alsace.
Thank you.
Magnifique interprétation, je trouve, du troisième concerto pour violon de Mozart, le final, avec Hugues Borsarello au violon, l'orchestre de chambre d'Alsace, le choix de mon invité d'aujourd'hui, Philippe Fosseux, directeur de l'association Lorraine de musique de chambre. Alors, la saison 2023-2024, des innovations ?
Oui et non, une innovation avec l'horaire, puisque tous les concerts commenceront à 20h au lieu de 20h30, c'est la nouvelle réglementation pour... et comme d'habitude, pour la saison, un ensemble de choses variées, qui s'équilibrent bien et qui devraient plaire à l'ensemble des publics. Hein. Mm-hmm. Il y a quand même des gens très différents, avec... des grandes vedettes, bien sûr, et aussi des artistes un petit peu moins connus, mais tout à fait remarquables. Un spectacle enfant, comme d'habitude, qui sera donc consacré au dessin sur sable et à la musique russe et française. Ouais. Et puis des grands...
Dessin sur sable, est-ce qu'on peut expliquer en deux mots ?
Dessin sur sable, oui. Alors, c'est tout simplement une femme qui prend du sable de couleur, ou de sable beige, couleur sable, bien sûr, et qui le distribue sur un vert éclairé et retransmis sur un grand écran, et qui dessine purement et simplement des visages, des paysages, des choses extraordinaires. Mmh. C'est un art qui est très pratiqué dans les pays de l'Est, moins en France, mais on a quelques très beaux dessinateurs sur sable en France.
Et donc avec sur une musique de...
Alors les musiques seront des musiques russes et françaises, alors sera Tchaïkovski, Debussy, Ravel, tous les grands airs connus. Pour les enfants, c'est important dans ce spectacle d'entendre des choses qu'ils connaissent déjà ou qu'ils ont déjà entendues, mais pas que pour les enfants, parce que il y a des gens qui m'ont reproché parfois de ne pas entendre de choses qu'ils connaissent. Les gens aiment bien entendre la musique qu'ils connaissent.
C'est la même chose pour les programmateurs radio.
Oui,
donc la saison s'ouvrira le 25 septembre à 20h, vous l'avez précisé, avec un duo de légendes, Katia et Marielle Labec, deux sœurs qui ont popularisé, on peut le dire, le répertoire pour deux pianos ou à quatre mains. Et est-ce que vous pouvez nous présenter ce programme, qui est d'ailleurs un programme très ouvert? Je lis Debussy, Ravel, Philippe Glass, compositeur d'aujourd'hui, compositeur américain qui a signé de nombreuses BO pour le cinéma, et puis donc un répertoire des artistes qui sont ouverts sur d'autres répertoires, notamment le jazz et le rock.
Tout à fait. Alors, le concert dont des sœurs Labec...
Oui.
Sœur Labec, c'est plus court à dire. comprendra effectivement Claude Debussy et Maurice Ravel, parce que ça fait partie de leur compositeur préféré. Et là encore, ce seront des œuvres relativement connues du répertoire qu'elles vont jouer. Et puis Philippe Glass. Alors Philippe Glass, c'est... un choix tout à fait volontaire, parce que on me réclamait du Philippe Glass depuis longtemps. Moi, j'étais un petit peu réticent à Philippe Glass, dans la mesure où je trouve un peu répétitif cette musique, mais je crois qu'il faut... C'est quand même un compositeur qui compte, c'est un compositeur qui marque son temps, et donc... mon goût personnel est passé au second plan, et j'ai choisi de faire avec elle La Belle et la Bête, qui est une œuvre que j'ai écoutée en détail et réécoutée en détail, et qui finalement finit par bien sonner à l'oreille. Alors la première fois est plus désarçonnante, les suivantes sont meilleures. Mais ce sont deux pianistes qui se sont réclamés par le public de Nancy très souvent. Elles sont venues régulièrement et elles ont beaucoup de mérite, puisque elles quittent leur Rome où elles habitent pour venir à Nancy, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Bon, on va écouter un extrait d'une autre œuvre de Philippe Glass, c'est Les Enfants Terribles. Ce ne sera pas au programme de ce concert, mais ça donne
une bonne idée
de la musique de Philippe Glass pour ceux et celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'ouverture des Enfants Terribles de Philippe Glass, avec au piano les sœurs Labec, comme vous l'avez dit.
Thank you.
Voilà, ça s'enchaîne. C'est un extrait de La Belle et la Bête. Non, des Enfants Terribles, pardon. De Philippe Glass, La Belle et la Bête, ce sera proposé lors du premier concert de la saison 2023-2024 de l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Alors, Philippe Foisseux, il y a deux artistes qui comptent beaucoup pour vous. C'est le concert du 20 novembre, toujours à 20h, avec Franck Bralet au piano, Hugues Borsarello, qu'on retrouve au violon, deux artistes que vous appréciez particulièrement.
Oui, alors voilà, il y a des gens comme ça qu'on apprécie par leur gentillesse, par leur contact, par la qualité de leur interprétation. Et il se trouve que la programmation s'est faite avec un nouveau programme qui est proposé par Franck et par Hugues de musique française. C'est un programme dans lequel il y aura une œuvre plus longue et puis ensuite des tas de petites œuvres et des compositions de Pauline Viardot, de Mel Benis, de gens qu'on n'entend pas souvent, mais qui sont de belles, très très belles choses.
J'allais vous poser la question justement, les compositrices, je ne sais pas si le mot existe d'ailleurs, oui. est-ce que c'est aujourd'hui un incontournable, on doit présenter, non pas par la parité, dans la parité, mais quand même davantage de femmes?
En dehors de la parité, moi je dirais qu'il y a de très belles choses écrites par des femmes qui ont été cachées pendant très longtemps, on ne les jouait pas tout simplement. Il y a très peu de temps, j'ai proposé avec le trio Morgenstern un concert uniquement avec des compositrices comme Clara Schumann, oui. Ou Fanny Mendelssohn, mais aussi des compositrices modernes. J'ai proposé un concert au château de Lunéville, à la chapelle du château de Lunéville, où il n'y avait que des compositrices femmes. Il y aura dans nos concerts au mois de juin, un concert avec uniquement des interprètes femmes. Mm-hmm. Et il y a maintenant, dans chacune de nos propositions et chaque fois qu'on le peut, une ou deux compositrices qu'on ressort, qu'on fait connaître, si elles ne sont pas connues. Il y aura quelque chose qui sera fait notamment autour de Mel Benis, qui est une très belle compositrice. Mm-hmm. Et ça, c'est pour le futur. Ça fait partie des objectifs.
Et puis, au mois de janvier 2024, Gauthier Capuçon, un artiste qui vous est cher, je le sais.
Oui, tout à fait.
Peut-être l'un des artistes d'ailleurs classiques les plus populaires du moment, avec son frère, oui. Très médiatisé.
Oui. Absolument. Les plus médiatisés,
les
on
plus
peut
médiatisés.
Dire.
On va écouter d'ailleurs justement un peu Gauthier Capuçon, puisqu'il sera présent durant la saison 2023-2024 de l'Association Lorraine de Musique de Chambre, avec un autre artiste invité, c'est Franck Bralet. Un petit extrait de la sonate numéro 5 pour violoncelle et piano de Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Trop court extrait de la cinquième sonate pour violoncelle et piano de Beethoven avec Franck Braillet, Renaud Gauthier Capuçon. Et voilà, donc un concert, deux artistes qu'on pourra retrouver la saison prochaine, 2023-2024, au programme de la saison de l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Merci beaucoup, Philippe Foisseux, d'être venu dans nos studios pour présenter donc votre association. Et puis, on vous remercie, outre le fait d'être venu, de vous être déplacé, pour ces merveilleux programmes, ces merveilleux concerts que vous proposez aux mélomanes nancéens et même au-delà, bien sûr, comme on dit.
Merci à vous de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir de parler à un public qu'on ne connaît pas forcément.
Voilà. Eh bien, bon dimanche à toutes et à tous et à très très bientôt, j'espère.